Bonsoir et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine des grands écarts. Elle peut être confisquée, légitime, libérée ou reprise. La parole dans nos sociétés démocratiques est toujours un instrument de pouvoir. Qui la détient? Qui en est privé? Silence dans les rangs des dominés jusqu'à ce mois d'octobre 2018.
Gilets jaunes, moi gilets jaunes, demain les gilets jaunes, faut danser petit.
Avec ses 28 millions de vues sur YouTube, l'hymne du mouvement des Gilets jaunes a changé la vie de son auteur, Cobb Johnson, un jeune chauffeur-livreur toulousain reconverti depuis dans la musique. Et il a changé un peu aussi la vie de notre première invitée ce soir, l'écrivaine et académicienne Danielle Salnave, qui a osé aller à l'époque contre les vents dominants de son milieu en prenant la défense du mouvement dans son essai « Jojo, le gilet jaune ». Depuis, elle n'a de cesse de s'interroger comment rendre la parole à ceux qui en sont toujours privés. La parole, quand elle surgit de là où on ne l'attend pas, peut aussi devenir émancipatrice. Pour Mehdi Kerkouche, il n'y avait pas de plan B, c'était la danse ou rien. La parole du corps, elle l'a portée de sa MJC de banlieue à l'Opéra de Paris.
Gamin, l'opéra, je le voyais de manière très sacrée. C'est la danse classique, ça ne me parlait pas en plus comme langage. À cet âge-là, j'étais vraiment Michael Jackson et Moonwalk. Et en adulte, je me rends compte qu'ils sont tellement ouverts à la danse contemporaine. Ces danseurs sont capables de tout danser.
Le danseur et chorégraphe Mehdi Kerkouche, révélé au grand public pendant le confinement avec ses vidéos qui ont fait des millions de vues, est notre deuxième invité ce soir.
France Inter. Sonia Khironi. Un monde nouveau.
On bouge, on ne tient pas en place, on s'exprime et on ouvre grand les oreilles ce soir dans un monde nouveau sur France Inter.
Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais la. Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Je t'entends dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Je sais que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice.
Collectif La Femme revient en force avec Le sang de mon prochain, tiré de l'album électropunk Paradigme, sorti cette année en partenariat avec France Inter. Elle est la plus punk des académiciennes, la moins académique, en tout cas, c'est sûr. Dans l'Assemblée des Immortels, elle détonne, pas seulement parce qu'elle est l'une des 5 femmes sur 36 membres à avoir été élue à l'Académie française, mais parce qu'elle est la seule à avoir pris au sérieux le mouvement des Gilets jaunes. Dans son essai « Jojo, le gilet jaune », publié dans la collection Tract de Gallimard, elle dénonçait le mépris de classe des élites culturelles et artistiques à l'égard du mouvement, une réflexion qu'elle prolongeait il y a quelques mois dans un nouveau tract « Parole en haut, silence en bas ». Fervente défenseuse de l'école républicaine, cette fille d'instituteur est toujours l'une des voix les plus progressistes de l'Académie sur les questions de langue. Elle est l'une des instigatrices du rapport sur la féminisation des noms de métiers adopté en 2019, femme de lettres. Elle est l'autrice d'une trentaine de romans, pièces de théâtre et essais. Bonsoir Danielle Salnave.
Bonsoir.
Quand on parle de l'Académie française, on a souvent l'image d'une assemblée pas très moderne, de vieux sages enfermés dans leur tour d'ivoire. Vous, au contraire, vous essayez toujours d'être à l'écoute de la société, de ses évolutions. Vous avez parfois le sentiment de détonner parmi vos pairs.
Vous savez, c'est ce que vous dites de l'Académie, ce qu'on en pense en général, je l'ai pensé très longtemps, quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, et même au-delà, je le pensais. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la grande liberté qui y règne. C'est-à-dire que les voix dissonantes peuvent se faire entendre...
Comme la vôtre.
Au sein d'une vraie entente, d'une amitié, d'une possibilité de discussion. Je ne dis pas que j'ai entraîné tout le monde dans un cortège des Gilets jaunes, et c'était pas mon souhait. Mon souhait, c'est de pouvoir dire ce que j'ai dit. C'est tout. Et j'ai réussi à le dire. Vous savez, j'ai un masque, un casque, mais je n'ai pas d'œillères ni de bandeau sur les yeux. Le mouvement des Gilets jaunes, depuis le moment où je me suis engagée sur les ronds-points, au moment où véritablement, il se passait quelque chose qui m'a semblé inouï. Il y a eu des évolutions qui ne m'ont pas toujours convenu. Et je ne suis pas toujours contente de ce que certains, se réclamant ou non du mouvement des Gilets jaunes, développent comme discours que je trouve très obscurantiste sur la santé, sur les vaccins, sur la vaccination. Mais tant pis, je pense que la parole, elle est à ce prix. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on ait le droit de dire n'importe quoi et que j'approuve tout ce qui peut se dire. La question est la suivante, qu'il s'agisse de la maladie de Covid, qu'il s'agisse du terrorisme, qu'il s'agisse d'engagements divers, la question de l'immigration, etc., que les citoyens reprennent ce droit de se faire entendre.
Alors quel regard justement vous portez aujourd'hui, Danielle Salnave, notamment sur ces manifestations contre le pass sanitaire? On entendait dans le journal une attaque contre un centre de vaccination. Ces manifestations, elles ont pu dégénérer, comme d'ailleurs à l'époque le mouvement des Gilets jaunes, dont certains observateurs ont pu estimer qu'il y avait quelques ressemblances entre les deux.
Mais c'est certain. Mais j'ai été un peu ébranlée, forcément, tout à fait au début du mouvement des Gilets jaunes. Il y avait des slogans homophobes à la venue d'un sénateur ou d'un député, je ne sais plus lequel, des slogans antisémites intolérables. La même chose, tout mouvement qui part de cette manière, c'est-à-dire sans qu'il ait été prévu, mis en place, mais il apportera forcément avec lui des choses dont on n'aurait pas envie. Est-ce qu'on préfère le silence? Non. Je ne préfère pas le silence. Ce que je voudrais, et bien évidemment, c'est que chacun et chacune, vous avez rappelé que j'étais pour la féminisation des noms de métiers et de professions, je ne suis pas pour l'écriture inclusive, hein, ça c'est autre chose quand même, ça c'est ma limite. Mais je tiens à dire chacun et chacune doit, avant de parler, peut-être comme disait ma mère, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Réfléchissons avant de parler. Ne colportons pas des thèses complotistes, des sottises sur les dangers de vaccins qui nous grefferaient des puces à l'intérieur de je ne sais quoi, du cerveau ou ailleurs. Non, ne colportons pas tout ça. Mais tant que la parole sera, au fond, remise à ceux qui ont droit à la parole, on aura forcément ces conséquences-là. Mais il faut que les citoyens et les citoyennes prennent très au sérieux leur devoir d'avoir une parole juste, informée, solide, combative. Il faut s'informer avant de parler aussi, c'est certain.
Pour vous, c'est là que se trouve la vraie inégalité fondamentale aujourd'hui entre ceux qui ont accès à la parole et ceux qui ne l'ont pas?
Mais je pense que c'est là qu'un monde nouveau est en train d'apparaître. C'est que cette question de savoir qui a droit à la parole, elle n'est pas nouvelle. Elle a déjà été, elle est venue, elle est repartie, elle a été dissimulée, elle est ressortie. Elle est revenue avec le mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, elle ne s'arrêtera plus. Et quand les Gilets jaunes disaient « on est là », on peut dire qu'en un sens, ils sont toujours là. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais, je vois bien aussi, ne nous exagérons tout de même pas, le nombre de ceux qui tiennent des discours complotistes, obscurantistes, ils sont peu nombreux. C'est quelques dizaines de milliers. Mais c'est ça, une démocratie. La démocratie, elle doit permettre à tous de se faire entendre, mais elle exige aussi de tous et de toutes le devoir de se dire « je parle à d'autres, je vais transformer des comportements, je veux initier, je dois parler avec un sérieux à la fois de l'information et de la réflexion, et ne pas me laisser embarquer, évidemment, dans des thèses qui sont aberrantes et qui sont dangereuses, vraiment dangereuses. »
Plus généralement, est-ce que cette crise sanitaire a renforcé, selon vous, le constat que vous faites d'une forme de confiscation de la parole légitime par les élites ?
Voyez bien comment ça se passait. Depuis le début de la catastrophe sanitaire, regardez comment ça se passait. Des informations qui se contredisent. Et le masque, non, on n'en a pas besoin, ça sert à rien. Puis ensuite, on en a besoin. Puis ensuite, on en a besoin dans certains cas. Puis pas partout. On peut voir aussi que cela crée, chez ceux qui écoutent et qui n'ont pas le droit à la réponse ou à la formulation de leurs propres propositions, ça peut déclencher une certaine, plus qu'une lassitude, ça peut déclencher ce sentiment que je crois dangereux, mais qui fait partie, là, de la démocratie, qui est, ils sont tous pareils, ils nous mentent, ils disent n'importe quoi. Je crois qu'il faut combattre ce sentiment-là. Mais plus la parole, à la fois politique, journalistique, des médias, laissera entendre cette labilité de toutes les opinions, plus on aura ce repli sur « on nous ment ». Et c'est une terrible réaction, « on nous ment ». Moi, je n'ai pas le droit de parler, mais on me ment. Mmh. Et ça, c'est une terrible sensation.
On constate aujourd'hui beaucoup de formes de libération de la parole, notamment à travers les réseaux sociaux, la parole des femmes victimes de violences depuis MeToo. Et plus récemment, on en parlait hier dans cette émission, la libération de la parole, en particulier chez les jeunes générations concernant les troubles psychiques et psychiatriques. Les réseaux sociaux ne sont-ils pas aussi, Daniel Salnave, des formidables canaux d'expression pour les hommes et les femmes qui n'ont pas la parole d'habitude ?
Alors, en un sens, vous savez, depuis toujours, et peut-être plus que jamais, je ne fais pas partie de ceux ou celles qui ont une opinion parfaitement tranchée et qui rejettent dans l'obscurité et dans le noir les opinions contraires. Je suis souvent dans des positions qui sont balancées, contrebalancées. À l'égard des réseaux sociaux, personnellement, je ne vais sur aucun. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je lis aussi ceux des gens que je connais, des messages sur Facebook et ailleurs. Donc, je ne suis pas tout à fait sincère quand je dis que je suis complètement à côté. Mais je suis à la fois saisi par l'importance que ça a pris et aussi évidemment par des conséquences très négatives ou n'importe quoi, ou bien alors des choses tout à fait futiles qui prennent une importance incroyable, comme je le dis dans mon tract, photo de bébé ou photo de chat rigolo, bon ça va 5 minutes, mais pas trop. Mais je me dis que si ça a pris cette force, c'est pas seulement parce que commercialement ça représente une belle source de profit, mais c'est aussi parce que c'est un exutoire. Mmh. C'est un exutoire, c'est indéniable. C'est indéniable. Donc, je me dis que ce sont les formes de ce monde nouveau devant lesquelles des gens de ma génération, moi je suis né avec la guerre, donc j'en ai vu des mondes nouveaux successifs. Ce sont des mondes nouveaux qui ne sont pas prévisibles, parce que c'est ça la force de l'événement, c'est qu'on ne peut pas le prévoir. Mais moi, je dirais très franchement que je suis plutôt contente de cette explosion, à la fois de la parole, des libérations. Je prends un autre, vous avez pris la question du mouvement des femmes, j'en prendrai un autre. Par exemple, la question de ce qu'on appelle la race, ou la couleur, ou la visibilité. Quand je pense qu'il y a un débat absolument stérile pour savoir si on a raison ou non de parler de privilèges blancs. Bon, certains en font un usage que je peux contester. Mais en soi, qui pourrait le nier ? Qui pourrait le nier, comme on disait quand j'étais enfant, mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. Ben mieux vaut être blanc, riche et bien portant que noir, pauvre et malade. Donc, je pense que l'explosion de cette voix, c'est une chose extraordinaire. Et elle me réjouit profondément.
Vous qui êtes une féministe de longue date dans le sillage de Simone de Beauvoir, dont vous dites qu'elle vous a appris la possibilité de choisir librement votre vie, vous lui avez consacré une biographie également, Castor de guerre, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur cette nouvelle génération de femmes et de jeunes filles ?
Moi, il me semble que beaucoup de... Rien n'est d'une seule je le disais à l'instant, rien n'est massif, droit et d'un seul tenant. Il y a des contradictions, il y a des choses que les nouvelles générations découvrent. Par exemple, contrairement à ma génération et à celle de Simone de Beauvoir, avant et même un peu après, elles découvrent que arriver à véritablement concilier la maternité et le travail, elle se pose vraiment cette question et elle la pose beaucoup d'une manière extrêmement intéressante. Parce qu'on est sorti du temps où une femme n'était définie que par sa capacité à donner la vie, à faire des enfants. Sinon, elle était considérée comme inférieure ou carrément monstrueuse. Les jeunes femmes d'aujourd'hui peuvent parfois retomber, hélas, dans des idées traditionnelles, c'est possible. Mais beaucoup disent non, moi je ne veux pas des idées traditionnelles, mais je ne veux pas non plus ne pas essayer de concilier. Et on est loin d'y arriver. On est loin d'y arriver.
Vous avez évolué aussi, Daniel Salnave, sur la question, on en parlait tout à l'heure, de la féminisation de la langue française. Vous reconnaissez avoir longtemps pensé que c'était inutile. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Mais c'est vrai, je l'ai pensé pendant longtemps. Tout à fait, au début, je parle de, comme dit la chanson, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Au début de la Mitterrandi, au début de la longue présence du président Mitterrand, des mouvements se sont mis en place, des féministes auprès au ministère et des amis comme Benoît de Groult, qui voulaient tout de suite engager ce chantier de la féminisation. Et moi, je le trouvais non pas choquant, inutile. Je me disais, mais qu'est-ce que ça peut faire, choix écrivain au masculin ou pas? L'essentiel, c'est d'écrire. Puis après tout, il n'y a peut-être pas tellement de différence. Et petit à petit, j'ai compris mon erreur. C'est que si nous ne féminisons pas les noms de métiers et de professions, les femmes ne sont pas suffisamment visibles. Si un enfant dit... ma mère est procureure, procureur, c'est pas seulement des hommes, c'est aussi des femmes. Donc je crois qu'il est indispensable que la féminisation des noms de métiers de profession rende les femmes plus visibles.
On termine, Daniel Salnave, avec la question rituelle de cette émission. Quel est selon vous l'objet du futur ou l'objet qui manque au futur?
L'objet qui sera présent dans le futur et qui est présent depuis déjà très longtemps, c'est un livre. C'est le livre qui est l'objet le plus inouï, le plus inattendu et le plus nécessaire. Vous savez, j'ai fondé il y a quelques années avec quelques amis une association pour la défense de la lecture quotidienne.
15 minutes par jour.
En famille, avec les parents, avec les frères et sœurs, à l'école, en dehors de l'école, si l'on s'en lit. Eh bien, le livre, c'est cet objet. Je l'imagine comme une sorte de météore qui traverse les époques et qui, à chaque fois, apporte la vie. C'est la vie. Et l'objet du futur, c'est le livre.
L'académicienne du Monde Nouveau était notre invitée ce soir. Merci beaucoup, Daniel Salnave.
Merci à vous.
Yeah.
Kid Born in Space, issu du premier album de Colaboy, Prosthetic Bombbox, en partenariat avec France Inter. Le chanteur californien a signé chez un label français, Record Makers. Né avec une malformation de la colonne vertébrale et amputé dès son plus jeune âge d'une jambe, l'artiste raconte dans ce morceau les violences subies dans son enfance.
Un monde nouveau. Sonia Khironi sur France Inter.
On continue d'écrire le monde nouveau sur France Inter avec Myriam Levin, cofondatrice et rédactrice en chef de Chic, le média inclusif et générationnel des combats d'aujourd'hui. Bonsoir Myriam.
Bonsoir.
Et François Vert, rédacteur en chef de Zadig Magazine, la revue trimestrielle qui raconte toutes les Frances. Bonsoir François, on commence avec vous. En plein cœur de l'été, élément saisonnier souvent déclencheur, de plus en plus de Français se disent qu'ils aimeraient changer de vie. Les confinements successifs en ont déjà poussé un certain nombre à reconsidérer l'organisation de leur existence. Quelles sont, François, les motivations de ces Français qui veulent changer de vie ?
Mais à vrai dire, elles sont très diverses. D'abord, pour certains, il y a l'envie de renouer avec une passion dont on n'a pas pu faire son métier, par exemple. Ensuite, chez d'autres, il y a la volonté d'être plus autonome en étant son propre patron, de moins dépendre d'une structure ou d'une organisation. Enfin, il y a le besoin de trouver un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, la sociologue Catherine Negroni parle de bifurcation pour désigner ces changements d'orientation qui sont plus ou moins radicaux, qui concernent aussi bien les hommes que les femmes, mais davantage sans doute les hommes que les femmes dans le contexte actuel. Et ces changements se vivent de plus en plus souvent en famille.
Et alors, quelles formes peuvent prendre ces changements de vie ?
Classiquement, il s'agit d'une reconversion professionnelle, souvent décidée au mi-temps d'une vie et qui répond à un souci d'épanouissement. Alors bien sûr, il y a ceux qui se mettent à élever des chèvres en Ardèche ou à ouvrir un restaurant après avoir été trader. Mais à présent, cela peut survenir en fait à tout âge, correspondre aussi à un nouveau lieu de résidence pour des citadins qui sont lassés des grandes villes, qui veulent échapper à leurs nuisances, à leurs insuffisances. Et puis, il faut bien dire que la reconnaissance massive de l'efficacité du télétravail facilite beaucoup ses choix en permettant de poursuivre son activité professionnelle à distance.
Et dans l'enquête que vous avez publiée dans Zadig, François, vous montrez aussi combien les territoires ruraux cherchent à attirer ces aspirants à une nouvelle vie.
Mais oui, ça a été une surprise en fait, parce que pour trouver le village ou la petite ville qui leur conviendra le mieux, ceux qui aspirent à changer de vie ont l'embarras du choix. C'est ainsi qu'à l'échelle d'une commune, il y a des structures d'accueil dotés de référents qui sont autant d'ambassadeurs et qui offrent des solutions pour l'emploi et l'activité, bien sûr, mais aussi pour la scolarité des enfants et la santé.
Et quelles conséquences alors pourrait avoir ce phénomène ? On sait que le confinement a fait l'effet d'un électrochoc pour beaucoup d'habitants des grandes villes à la recherche d'une meilleure gestion de leur temps et d'une plus grande cohérence aussi entre leurs idées et leur mode de vie.
Ben oui, la pandémie a constitué une forme de défi, avec une remontée des incertitudes, mais aussi l'envie de sortir de la routine quotidienne. Alors, sur le plan géographique, les villes moyennes sont plébiscitées dans les enquêtes sur les lieux où il fait bon vivre. Alors, à terme, il n'est pas impossible qu'on assiste à un exode des urbains vers des territoires de plus en plus éloignés, et peut-être qu'on va voir ainsi l'émergence d'un nouveau monde, justement, avec une meilleure occupation du territoire après des décennies de concentration de la population dans les grandes capitales nationales ou régionales.
Merci beaucoup François. Et si vous voulez en savoir plus, je précise que l'enquête que vous avez consacrée à ce sujet du changement de vie est toujours disponible sur le site zadiglemag.fr. Changer de vie, ça peut aussi passer par une redéfinition de nos aspirations amoureuses. Myriam Levin, vous êtes cofondatrice et rédactrice en chef de Chic. Qu'est-ce que vous nous apprenez ce soir, Myriam ? Que le couple hétérosexuel serait complètement démodé ?
Oui, le couple tel qu'on le connaît, en tout cas, doit être réinventé car il semble créer de plus en plus de frustration dans un monde où liberté et indépendance sont des valeurs essentielles, notamment pour les femmes, et ça, c'est nouveau. La conversation prend de l'ampleur depuis que les réalisatrices Ovidie et Olympe de Gé, deux expertes de la sexualité féminine, ont chacune dit au printemps qu'elles en avaient assez de coucher avec des hommes. La première a testé l'expérience de l'abstinence pour son documentaire radio « Survivre sans sexe ». La deuxième a entamé une grève de l'hétéronormativité qu'elle documente sur son compte Instagram et dont elle se sert pour dénoncer les rapports de force qui se jouent dans le couple hétéro. Et c'est précisément toutes ces thématiques qu'aborde le numéro de l'Obs de cette semaine, qui met en couverture les couples qui veulent faire autrement.
Mais alors ça veut dire quoi, faire autrement, Myriam, quand on est en couple ?
Ça veut dire par exemple ne pas habiter ensemble, ou bien s'autoriser quelques incartades, ou pourquoi pas tenter le polyamour. Mais ça peut tout simplement passer par des moments où on fait des choses séparément pour mieux se retrouver après. Ça veut dire surtout mettre en place des modalités qui permettent une réelle égalité. Parce que le point commun de toutes les prises de parole que j'ai évoquées, c'est qu'elles montrent à quel point les femmes hétérosexuelles sont perdantes dans le schéma du couple tel qu'on le connaît. Non seulement elles écopent de beaucoup plus de charges mentales, mais notre éducation collective à l'amour crée une attente bien plus forte envers le couple chez les femmes, qui deviennent plus dépendantes du sentiment amoureux que les hommes pour être épanouies. C'est ce qui ressort de tous ces travaux, et c'est aussi le postulat de l'essayiste Mona Chollet qui publie en septembre le très attendu « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles », un livre dont on va sûrement parler à la rentrée puisque son sujet concerne l'écrasante majorité des personnes hétéros qui choisissent de vivre à deux. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que les hommes attaquent ce modèle, sans doute pour d'autres raisons. La preuve dans cet extrait de L'amour dure 3 ans, film adapté de son roman par Frédéric Beck BD en 2011.
Pourquoi tu veux épouser Cathy, toi, le grand spécialiste français du libertinage?
Mais la réponse est encore plus simple, là. Parce que je l'aime.
Et tu trouves que c'est une raison suffisante?
On est différent, Marc. Toi, tu veux juste conquérir et après tu t'emmerdes. Moi, chaque fois que Cathy est à côté de moi, je suis heureux.
Mais si tu es heureux, pourquoi tu veux l'épouser? Regarde-moi, moi je suis divorcé, je suis amoureux d'une femme mariée. Le mariage, ça ne sert qu'à mettre les gens dans la merde.
On a reconnu Gaspard Proust et Jonathan Lambert. Mais alors Myriam, peut-on vivre sans être en couple?
Alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais je tranche et je dis que oui, que c'est peut-être même l'une des révolutions actuelles majeures pour les femmes qui découvrent qu'on peut vivre hors de la conjugalité et aimer cette liberté. Il y a des raisons historiques, religieuses et matérielles qui ont instauré le couple hétéro et a fortiori le mariage comme norme, mais l'époque est à la déconstruction. L'explosion du nombre de divorcés et de célibataires montre qu'il y a d'autres chemins amoureux possibles et que l'exploration de la sexualité est infinie. L'apparition des mères solo par choix grâce à la PMA prouve aussi qu'on peut s'affranchir des schémas familiaux ancestraux. Mona Chollet encourage les femmes hétéros à ne plus faire du couple traditionnel le centre de leur vie pour pouvoir se retrouver elles-mêmes. Et l'anthropologue Françoise Héritier, dans les dernières lignes de son dernier livre paru en 2017, juste avant sa disparition, avait choisi de rendre hommage non pas à son mari, mais à ses amis. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander le hors-série de Philosophie Magazine sur l'amitié, parce que le couple de demain, celui qui dure vraiment toute la vie, c'est peut-être celui que l'on forme avec notre meilleur ami.
Merci beaucoup Myriam Levin, cofondatrice et rédactrice en chef de Chic. Vos articles sont à retrouver sur le site des Inrecuptibles et en kiosque tous les mois. Et merci à vous François Vey, rédacteur en chef du magazine Zadig, qui étiez avec nous également. On vous retrouve tous les deux mardi prochain. Changer de vie, pas sûr que cela le tente. Lui qui vit déjà pour et de sa passion, la danse. De ses débuts à la MJC de quartier de Rueil-Malmaison en banlieue parisienne, à sa création pour l'Opéra de Paris après avoir été repéré pendant le confinement par Aurélie Dupont sur Instagram, l'itinéraire de Mehdi Kerkouche ne ressemble à aucun autre. Une singularité qui est sans doute l'une des clés du succès de cet artiste touche-à-tout. Le chorégraphe Kamel Wally, qui l'a révélé, dit de lui qu'il a toujours des étoiles dans les yeux, je confirme. On les voit qui brillent au-dessus du masque. Bonsoir Mehdi Kerkouche.
Bonsoir, merci beaucoup.
On est très heureux de vous recevoir ce soir sur France Inter dans Un Monde Nouveau. On vous a découvert pendant le premier confinement avec ces vidéos de danseurs confinés qui ont fait des millions de vues sur les réseaux sociaux. Le début d'une belle histoire qui vous a emmené à l'Opéra de Paris. On va en parler, mais d'abord, on parlait dans la première partie de l'émission avec Daniel Salnave des mécanismes de confiscation de la parole par les groupes dominants dans la société. Est-ce que vous avez eu, vous, à un moment de votre vie, le sentiment que vous n'auriez pas droit à la parole?
Bien évidemment. Bah, bien évidemment, enfin, sans, voilà, je m'appelle Mehdi Kerkouche, je suis un jeune enfant d'émigré, homosexuel, qui a grandi dans un quartier. Il y a eu tout le questionnement de vais-je trouver ma place dans ce monde et comment la trouver, comment la prendre. Donc évidemment, ce débat me parle énormément et je l'entends.
Le danseur et chorégraphe Mehdi Kerkouche est l'invité d'Un Monde Nouveau ce soir sur France Inter. On va revenir sur votre parcours hors du commun, vos influences, notamment la musique et notamment le duo français The Blaze.
We shed some tears of love now, like a desert in the rain, when some of the dead are waking up. Yeah. There's nobody like my mom, there's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong, I've missed it so long now.
Territory, issu de l'EP éponyme du duo française Blaze, dont le clip qui a été tourné en Algérie a été vu plus de 66 millions de fois et récompensé du grand prix du film Craft au Cannes Lyon Festival. Mehdi Kerkouche, vous êtes fan de The Blaze. Leur musique vous inspire beaucoup et d'ailleurs vous avez fait appel à Guillaume Alric, l'un des membres du duo, pour composer la musique de la pièce que vous avez créée pour l'Opéra de Paris.
Absolument, c'était une grande chance. Quand je suis arrivée à l'Opéra, Aurélie Dupont m'a dit « qu'est-ce que tu imagines et de quoi as-tu envie ?» Je lui ai absolument dit immédiatement mon admiration pour ce groupe et elle m'a dit « bon, bah, si tu veux, on les appelle ». Je dis « bah go !»
Alors on va revenir au début de l'histoire. Mehdi Kerkouche, la passion de la danse chez vous, elle est venue très tôt. Vous l'avez découverte à la télévision, dans les clips. Michael Jackson, Britney Spears, comment ont réagi vos parents immigrés algériens quand ils ont vu que vous passiez votre temps à danser avec des copines plutôt qu'à jouer au foot avec des
Alors non, il y avait énormément de bienveillance. Maman d'ailleurs, alors avant les clips même, je pense que je n'avais pas spécialement vu les vidéos, mais je dansais, c'est-à-dire la musique était tout le temps en place à la maison et je pouvais pas m'arrêter de bouger, danser, chanter dessus. Donc c'est là où maman a dit bon bah je vais l'inscrire à un cours de danse et on va voir ce que ça va donner quoi. Donc il y a eu énormément de bienveillance, énormément d'accompagnement. Je pense que le questionnement il arrivait bien plus tard, je l'ai compris avec le temps que c'était plus une question de moyens. D'avoir une activité extrascolaire, etc., par rapport à ce que maman faisait comme métier et tout, mais c'était plus ça qui... Et puis après, il y a eu la peur de ce métier, on le connaît pas, c'est ce qu'on voit à la télévision, c'est très abstrait quand on vient d'une banlieue où maman, elle a employé une maison, enfin, elle n'arrive pas à s'imaginer ce monde-là, finalement. C'était ces craintes-là qui arrivaient beaucoup plus tard.
Elle avait peur pour vous ?
Oui, je pense, comme toutes les mamans.
Vous avez un parcours atypique, donc vous n'avez pas fait d'école de danse prestigieuse, vous avez pris donc des cours de hip-hop à la MJC du quartier, pour finalement être repéré par Kamel Wally, le chorégraphe à l'époque vedette de la Star Academy. S'en sont suivies plusieurs collaborations avec Christine and the Queens.
Exactement, ouais, 3 ans de tournée avec Christine.
Et oui, vous étiez danseur sur sa toute première tournée. Des comédies musicales également, et en particulier Le Roi Soleil, qui va alors lui complètement changer votre vie.
Ouais, mais c'est la chance que j'ai eue de rencontrer Kamel quand j'étais très jeune. J'avais effectivement 18 ans quand j'ai passé ma première audition. Moi, mon rêve, c'était de danser et de tout faire. Je voulais être autant dans les théâtres qu'à la télévision, qu'accompagner les artistes, que raconter des histoires. Je voulais tout faire.
Mais qu'est-ce qui se passe alors pendant une représentation du Roi Soleil?
Oui, cette anecdote, elle est rigolote. Elle est d'autant plus rigolote. Enfin, personne l'a vu venir et moi le premier. Effectivement, Christophe Maé, qui était un des rôles principaux de ce spectacle, qui en plus était juste la superstar montante de cette période, se blesse et n'a pas de doublure sur ce spectacle. Et malheureusement, on était en tournée, on était à Metz, je crois, les arènes de Metz, enfin c'est 6000 personnes tous les soirs pendant 5 jours. Le show must go on, comme on dit chez nous. Donc du coup, Dov Attia, qui était le producteur de l'époque, qui m'avait entendu chanter dans les couloirs, s'est dit ben vas-y mon petit, c'est ton tour.
Et vous connaissiez tout par cœur?
Je connaissais tout par cœur parce que ça faisait déjà 200 spectacles que je jouais à ses côtés, donc c'était fou.
Par la suite, vous montez votre propre compagnie de danse et enchaînez les collaborations. Vous êtes de toutes les grosses productions à la télé, les Victoires de la Musique, Mask Singer ou encore le concours de Miss France, jusqu'à ce jour de mars 2019 où débute donc le premier confinement. À l'époque, vous êtes...
Mars 2020, parce que si c'était 2019, ça ferait déjà 2 ans qu'on y était. Hein. On peut plus, là.
Et à l'époque, vous êtes, comme beaucoup de Parisiens, enfermés dans un petit studio de 30 mètres carrés. Vous qui ne tenez pas en place d'habitude, vous dites « c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose ».
Exactement, moi je suis complètement hyperactive, je n'arrive pas à rester assis pendant très longtemps. D'ailleurs c'était mon gros problème à l'école, rester assis de 8h à 17h, c'était impossible. J'ai trouvé le moyen de créer des choses, quoi. Je voulais continuer de danser, ça a commencé d'abord par donner des cours de danse en ligne. La première action que j'ai faite, c'était donner des cours de danse pour le personnel soignant. On récoltait des sous avec une cagnotte à la fin de chaque cours en direct sur Instagram. Et ensuite je me suis dit, non mais je peux continuer à faire des chorégraphies. Là on est en train de s'appeler en Zoom toutes les semaines avec tous les copains pour faire des apéros chacun chez soi, on peut faire une chorégraphie comme ça.
Et donc il y a donc cette première vidéo que vous mettez en ligne, où vous mettez en scène vos danseurs confinés sur un tube de Barry White. La vidéo devient virale, 4 millions de vues. Mehdi Kerkouche, vous enchaînez avec un marathon de la danse, donc toujours sur les réseaux sociaux. 70 danseurs et chorégraphes qui se succèdent en live pendant une journée et vous récoltez 18 millions d'euros.
18 millions, mon Dieu.
18 000. Ouais, je m'emballe. 18 000 euros, c'est déjà super bien au profit des soignants et de la Fondation de France. Et là, qui vous appelle?
Et là, effectivement, mon téléphone sonne et c'est Madame Macron au bout du fil qui m'appelle pour me féliciter pour cette action, pour cet engagement et puis d'avoir mis en place mon art et mon métier pour contribuer à redonner un peu de sourire aux gens. En cette période compliquée.
Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vous a remarqué pendant cette période compliquée, c'est bien sûr Aurélie Dupont, donc la directrice du ballet de l'Opéra de Paris, qui vous propose de monter une pièce avec les danseurs contemporains de l'Opéra Garnier. Et là, c'est le choc des cultures.
Ah ben là, je me suis demandé si elle était folle ou pas déjà. c'était un cadeau. Enfin, c'était incroyable cette année 2020. Moi, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait quand Aurélie Dupont me propose ça. Je me demande si elle est sérieuse ou pas, et surtout que c'était une soirée partagée avec d'autres chorégraphes de renom qui sont pour moi les plus grands chorégraphes contemporains présents aujourd'hui sur Terre. Donc ouais, j'ai de manière très insouciante, j'ai dit OK, on y va. Et c'était magique. C'était absolument magique de se retrouver à l'Opéra de Paris.
Le résultat de cette collaboration, c'est donc un spectacle qui mêle danse contemporaine et hip-hop. Ça s'appelle Essi. Et à cause du deuxième confinement, vous n'avez donc malheureusement pas pu faire de représentation en public. Mais la pièce a été captée par France Télévisions. On écoute.
Créer aujourd'hui, je pense que c'est avoir un regard sur ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas ne pas être conscient de ce qui se passe actuellement. C'est se donner la parole, en ce qui nous concerne par le corps, de nous exprimer et de continuer de raconter des histoires.
Quelle histoire avez-vous eu envie de raconter dans cette pièce avec les danseurs de l'Opéra Garnier? Comment s'est passée avec eux cette rencontre?
Voilà, la rencontre était absolument parfaite. En fait, j'avais énormément d'angoisse et de stress de me retrouver face à des danseurs qui n'ont pas le même langage que moi. Et je me suis dit, mais cette maison est tellement importante, il y a tellement de poids, il y a tellement de pression d'arriver dans ce lieu sublime. Est-ce que je vais être à la hauteur? Et surtout, est-ce que eux vont être disponibles et généreux? Et en fait, je me suis retrouvée face à des danseurs extraordinaires, généreux, positifs, hyper heureux de rencontrer quelqu'un qui vient d'un univers complètement différent. Donc la rencontre s'est extrêmement bien passée. Et le thème de la pièce, en fait, voilà, j'étais très 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 affecté, comme le monde entier de toute façon, par tout ce qu'on vivait l'année dernière. Et j'avais appelé cette création « Et si ?», puisque pour moi c'était la question de « Et si c'était la dernière fois finalement que je pouvais danser, que je pouvais créer, que je pouvais raconter une histoire sur un plateau, comment est-ce que je le ferais ?»
Les danseurs de l'Opéra de Paris qui ont aussi beaucoup apprécié cette collaboration, ils ont dit que c'était la première fois qu'on leur parlait gentiment.
Non, c'est vrai. Dieu, j'espère pas.
Si,
ouais, non, c'était assez magique comme rencontre.
Vous avez aussi fait une incursion médicarcouche dans le cinéma, dans le film Let's Dance, sorti en 2019, où vous incarnez un danseur de hip-hop qui se retrouve à donner des cours à des danseurs classiques. Un scénario prémonitoire.
Exactement.
On écoute un extrait.
Est-ce que nous plus que vous? Eux, ils respectent les règles. Ils se tiennent à leur place. Mais ça vous parle pas, ça, hein, n'est-ce pas?
Non.
Quoi, pardon? J'ai rien entendu, là.
Non, ça nous parle pas.
Voilà, exactement. Donc, dès demain, vous allez leur apprendre ça.
Attends, leur apprendre quoi?
À se lâcher! À sortir du cadre! À danser comme des fous furieux, là, voilà! À faire les cons! Sérieusement!
Let's Dance de Ladislas Chola, sorti en 2019. C'est ça que vous leur avez appris aux danseurs de l'Opéra de Paris? À sortir du cadre, à faire les cons sérieusement?
Franchement, oui. C'est drôle, effectivement. J'avais pas vu ça de manière prémonitoire, mais c'est rigolo parce que pour l'anecdote, j'ai encore des danseurs qui m'envoient des messages dernièrement et un danseur de l'Opéra qui m'écrit, aujourd'hui on a fait un échauffement à la Médie. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est un échauffement à la Médie? Il dit, on a mis les musiques qu'on voulait et on a kiffé. Et voilà. C'est par là que ça passe le plaisir au départ.
Depuis, vous avez monté un deuxième marathon de la danse au printemps dernier, cette fois au profit des étudiants. On ne vous arrête plus puisque là, c'est une troisième édition, c'est ça qui est en préparation.
Évidemment. En fait, on traverse des périodes troubles, on va pas se mentir. C'est très compliqué aujourd'hui de retrouver comment aller chercher le positif autour de nous. En fait, je pense que le milieu de la danse est... c'est magique. Ce qui se passe quand on danse, ce qui se passe quand on bouge, c'est absolument formidable. Et de voir tous ces corps, même si on n'ose pas le faire, en tout cas, ça fait énormément de bien. Et cette action, ce marathon de danse solidaire, pour moi, c'est devenu un rendez-vous qui, je pense, est très important. Donc, je suis en train de réfléchir, effectivement, à la troisième édition qui aura lieu au printemps prochain.
Au printemps prochain. Et puis, pour ceux qui voudraient découvrir et voir votre travail Médicarcouche, une de vos créations avec votre compagnie MK pour le Palais de Tokyo, Dapke. Un hommage à la danse traditionnelle arabe. On écoute.
<t'en>
Califé, la musique donc de d'une de vos dernières créations, Mehdi Karkouch, pour le Palais de Tokyo avec votre compagnie MK. Vous aviez eu envie de rendre hommage à la danse traditionnelle arabe pour
Absolument,
cette création.
Mais alors du coup, la danse traditionnelle s'appelle le dabke et moi je la connais pas du tout cette danse à la base. C'est en me penchant sur les origines. J'avais vraiment très envie de rendre hommage à mes origines puisque je m'en étais énormément éloignée pour plein de raisons. Et à un moment, j'avais besoin de me reconnecter à ses racines parce que c'est de là où on vient, c'est l'origine, c'est la vie. Et moi, j'avais quand même ce souvenir de tous les mariages arabes que j'ai fait quand j'étais petit. La folie, la fête, l'énergie était absolument incroyable. Et en me penchant sur toutes les danses traditionnelles arabes, je suis tombée sur le dabke qui était très symbolique, qui est une danse où les gens se tiennent par les mains, les gens tapent du pied pour marquer le rythme très fort. Et les gens poussent des cris, c'était les guerriers avant qu'ils faisaient ça pour célébrer leur fête. Et j'ai eu envie de rendre un hommage à ce style-là de manière contemporaine.
Et si vous voulez découvrir ce spectacle, donc dabke, sachez qu'il est toujours visible sur le site de France Télévisions et sur YouTube. On termine, Mehdi Karkouch, avec un exemple de conviction qui a changé le réel à l'occasion des 40 ans de la loi Lang sur le prix unique du livre. On vous a proposé de choisir un livre dont vous avez envie de nous parler ce soir. Qu'est-ce que vous avez choisi ?
Non, mais j'étais incapable de me décider. On m'a dit d'en choisir un livre.
Ça a été dur de choisir.
Mais alors, attendez, parce que j'aimais bien ça. Je pense que je vais prendre mon livre de chevet, celui qui m'a fait un peu le petit électrochoc de vie. Ça s'appelle Soufi mon amour, d'Elif Shafak. C'est une sublime histoire d'une femme, d'une maman de 40 ans, de confession juive, qui a un métier d'éditrice et qui est perdue dans sa vie. Elle s'entend plus avec son mari, elle s'entend plus avec ses enfants, elle s'entend plus avec personne. Son métier lui plaît absolument plus, et un jour elle va tomber sur des écrits qui n'ont rien à voir avec la tradition qu'elle a l'habitude qu'on lui a inculquée ou qu'on lui a apprise, et ça va bouleverser sa vie et ça va lui ouvrir l'esprit de manière formidable. J'ai adoré ce livre et je le conseille. Voilà.
Soufi, mon amour, d'Eli Shafak. Merci beaucoup, Mehdi Karkouch, d'être passé par un monde nouveau ce soir sur France Inter. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ?
Écoutez,
du public, du public.
Oui, j'ai hâte de reprendre les spectacles, j'ai hâte de remonter des créations, j'ai hâte de présenter au monde nos travaux et puis que la vie reprenne. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Un monde nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Collier à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et préparation de l'émission. Et les indispensables Lily Cornillac et Anaïs Dinarc. À la technique ce soir, Antoine Cruchon. Un nouveau monde, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain avec la scientifique spécialiste des algorithmes Aurélie Jean et l'écrivaine Rebecca Gisler. Après le journal de 19h, vous avez rendez-vous avec Le Téléphone Sonne, animé ce soir par Éric Delvaux. Et cette question, lutte contre les trafics de stupéfiants, une guerre sans fin.